Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. C'est pourquoi je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre eux mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné?
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom, qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.
Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Pour nous le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient
« Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. »
Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra, avec un flacon d'albâtre, contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient.
« À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. »
Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit
« Laissez-la. Pourquoi la tourmenter ? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas pour toujours. » Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. »
Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent
« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?»
Il envoie 2 de ses disciples en leur disant
« Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. » « Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. »
Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent, tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara
« Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. »
Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient
« Serait-ce moi ?»
Il leur dit
« C'est l'un des 12. » Celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, « Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. »
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit,
« Prenez, ceci est mon corps. »
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit,
« Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit,
« Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
Pierre lui dit alors,
« Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. »
Jésus lui répond,
« Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. »
Mais lui reprenait de plus belle,
« Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. »
Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples,
« Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. »
Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit,
« Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. »
Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait,
« Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. »
Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre,
« Simon, tu dors ? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. »
De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit,
« Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. »
Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu.
« Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. »
À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit,
« Rabbi. »
Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors, Jésus leur déclara,
« Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. »
Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'y avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage.
Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre, et qui ne sera pas fait de main d'homme.
Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus.
Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?
Mais lui gardait le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau.
Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?
Jésus lui dit.
Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégé à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel.
Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit.
Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en pensez-vous ?
Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant.
Fais le prophète.
Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit.
Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?
Pierre le nia.
Sûrement, tu es... Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles.
Puis, il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors, un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là.
Celui-ci est l'un d'entre eux.
De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour.
Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen.
Alors il se mit à protester violemment et à jurer.
Je ne connais pas cet homme dont vous parlez.
Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors, Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea.
« Es-tu le roi des Juifs ?»
Jésus répondit.
« C'est toi-même qui le dis. »
Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau.
« Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. »
Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils demandaient. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'il avait commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander à ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit.
Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?
Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait,
que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?
De nouveau, ils crièrent.
Crucifie-le !
Pilate leur disait.
Qu'a-t-il donc fait ?
Mais ils crièrent encore plus fort.
Crucifie-le !
Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en disant
« Salut, roi des Juifs !»
Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmènent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne » ou « calvaire ». Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait
« Et toi, qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. »
De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux
« Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. »
Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte
« Eloi, Eloi, lema sabachthani !»
Ce qui se traduit
« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient
« Voilà qu'il appelle le prophète Élie. »
L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout du roseau et il lui donnait à boire en disant
« Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. »
Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comme il avait expiré, déclara
« Vraiment, cet homme était fils de Dieu. »
Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le petit et de Josué, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervient. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis.
Acclamons la parole de Dieu. mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Y a-t-il parole plus énigmatique, plus scandaleuse d'une certaine façon, que cette parole de Jésus sur la croix, la seule que nous rapporte l'évangéliste saint Marc aujourd'hui ? Qui aurait osé inventer une telle parole pour le Fils de Dieu ? Ce n'est cependant pas la rupture totale entre Jésus et son Père. Cela reste une prière. Mon Dieu, mon Dieu. Et cela est sans doute un encouragement pour tous ceux qui vivent dans la dérilection, dans le découragement, dans l'abandon le plus total, de voir que nous aussi, nous pouvons crier vers Dieu notre désespoir, notre malheur, sans qu'il y ait nécessairement un blasphème. On peut aussi se rappeler que ces paroles sont les premières paroles d'un psaume, hein, le psaume 21 ou 22 selon les classifications que nous avons entendues. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mais ce n'est pas parce que ce psaume raconte des siècles avant la passion de Jésus ce que Jésus va vivre, ce n'est pas pour cela que Jésus ne vit pas cette parole à fond, que ce n'est pas le fond de sa prière et de la prière de son cœur. Un psaume qui annonce des siècles avant, hein, puisque oui, tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête, qu'ils comptent sur le Seigneur, qu'ils le délivrent. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Oui, tout ce que nous avons lu, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est bien sûr le fruit de la liberté, de la lâcheté des hommes. Les apôtres qui abandonnent Jésus, les grands Judas qui livre Jésus aux grands prêtres, les grands prêtres qui livrent Jésus à Pilate, Pilate qui livre Jésus à la foule. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Si Jésus prononce cette phrase, c'est parce que dans le plan de Dieu, il faut que Jésus descende jusqu'aux profondeurs de la souffrance humaine, qu'aucun homme ne puisse jamais dire « Jésus n'a pas connu la dérilection, le malheur que je connais ». Jésus a voulu rejoindre le pire de la souffrance des hommes. Durant la Deuxième Guerre mondiale, dans un camp de concentration, le responsable du camp, avec beaucoup de sadisme, voilà, avait fait pendre un jeune homme, bien sûr, devant tout le camp réuni. Et l'un des prisonniers, qui n'était pas croyant, dit à son voisin qui était croyant, il lui dit, mais ton Dieu, où est-il ? Et le croyant a répondu en montrant celui qui était pendu, il est là. Voilà ce que Jésus a voulu vivre. Cet abandon, c'est le plan de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, sauve-toi toi-même. Ça, c'est la tentation du démon. C'est la tentation des méchants qui réclament à Dieu un signe. Encore, toujours un signe de plus. Et ce signe ne viendra pas. Attendez, nous verrons bien si Élie va venir le délivrer. Et non, Élie n'est pas venu le délivrer. Et Jésus, poussant un grand cri, expira.
Voilà jusqu'où va l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je dirais, voilà, si tout s'arrêtait là, ce serait la catastrophe maximum. L'évangile poursuit. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Voilà, le grand prêtre avait déchiré son vêtement, hein, parce que Jésus avait dit « Je suis le Fils de Dieu » et qu'il l'avait pris pour un blasphème. Maintenant, c'est Dieu lui-même, puisque le rideau du temple, humainement, ne peut se déchirer que de bas en haut. S'il se déchire à partir du haut, c'est que c'est Dieu qui le déchire. Voilà, c'est Dieu qui déchire son vêtement maintenant en face de cette mort de Jésus, pour nous dire d'une certaine façon, voilà, l'ancien culte est terminé. Le nouveau culte, hein, du salut par la foi est ouvert. Et il est ouvert tout de suite, avec ce centurion, hein, dont nous ne savons pas la foi, mais lui a tout vu. Et il en conclut, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Dans l'amour poussé jusqu'au bout, sans l'intervention de Dieu, cet homme reconnaît la trace de Dieu, la trace que Jésus est le Fils de Dieu. Eh bien, il faudrait que pour nous, il en soit de même. Hein, nous qui sommes appelés à être les témoins de Jésus, nous sommes nous aussi appelés, avec la grâce de Dieu, hein, à vivre l'amour jusqu'au bout, comme tant de martyrs du 21e siècle nous le montrent. Hein, les 20 martyrs de Libye qui ont été canonisés par l'Église copte et que le pape François a voulu faire inscrire aussi au martyrologe romain. Et puis tous ces milliers de chrétiens au Nigeria, au Burkina Faso et dans beaucoup d'autres pays qui donnent leur vie pour le Christ. Voilà, nous sommes appelés à marcher à cette suite sans que nécessairement il y ait de signes du ciel. Hein? C'est ainsi que Dieu veut sauver le monde. Hein? Et notre monde tourne mal. Notre monde a besoin, et d'abord par nous, en suivant le Christ, hein, de cet amour jusqu'au bout, pour que d'autres centurions se lèvent, et ils s'enlèvent, hein, qui reconnaissent que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et le Sauveur. Puissions-nous être témoins pour que la foi grandisse dans notre monde et que le salut apporté par Jésus puisse sauver notre monde. Amen.